Le journal de Loïc Georgi.
Bonjour, le tronçon entre Delémont et Porrentruy sur la 16 était inauguré il y a 25 ans tout pile. Un changement majeur dans la vie des Jurassiens, mais aussi pour l'économie de notre région. On fait le point dans ce journal avec la Chambre de commerce et d'industrie du Jura. Il faudra débourser un peu plus d'argent encore pour chausser les lattes cet hiver. Les prix des abonnements de ski pourraient augmenter jusqu'à 3% dans les grandes stations du pays. Une tendance qui pourrait se ressentir aussi dans la région. La science et la politique n'ont pas suffisamment collaboré pendant la pandémie de coronavirus. C'est la conclusion des chercheurs du programme national de recherche Covid-19, vous l'entendrez. C'est une météo très perturbée au menu de ce jour, entre nuages, pluie, vent, voire même chute de neige sur les hauteurs. Nous allons passer par tous les états d'âme. Les températures, quant à elles, seront douces. Voilà un quart de siècle que nous empruntons les tunnels du Mont-Théry et du Mont-Russelin sur l'autoroute A16. L'inauguration du tronçon de Delémont-Porrentruy a eu lieu le 14 novembre 1998, il y a donc précisément 25 ans. Aujourd'hui, 18 000 véhicules empruntent quotidiennement le tronçon entre la capitale jurassienne et le chef-lieu Ajoulot. L'autoroute A16 a changé le quotidien des Jurassiens, mais aussi le visage de l'économie de notre canton, selon Pierre-Alain Béret, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du canton du Jura.
En 1998, quand la 16 a été ouverte, il y avait dans le Jura environ 28 500 emplois équivalents plein temps. Il y en a à fin 2021 35 500. C'est 7 000 emplois plein temps supplémentaires qui sont occupés probablement avec les temps partiels par plus de 10 000 personnes. Donc c'est une évolution quand même très importante, plus 25%. C'est aussi l'infrastructure. La 16 qui a aussi permis cette évolution, parce que sans cette infrastructure, probablement que ce développement aurait été beaucoup moins dynamique.
Est-ce qu'en termes d'implantation, on a vu des différences entre l'avant A16 et l'après A16? Est-ce qu'il y a typiquement des entreprises nationales, internationales, qui ne seraient selon vous jamais venues dans le Jura sans cette infrastructure?
C'est toujours difficile de l'affirmer, mais on peut quand même le supposer de manière plus que plausible. Quand on voit le développement d'une zone industrielle comme celle de Glovelier, par exemple, quand on voit le développement à proximité de l'A16 à Porrentruy, à Boncourt, également à Delémont, eh bien, on voit quand même un lien assez direct avec cette infrastructure. Dans l'industrie, l'accès par la route pour la livraison de fournitures, pour la livraison de marchandises, est également très important. Et là aussi, si on doit acheminer des camions par des petites routes de montagne, eh bien, évidemment, ça renchérit les coûts d'une part, et ça pose aussi des problèmes de logistique insurmontables parfois. Donc là aussi, l'existence d'une autoroute est absolument décisive.
Est-ce que l'argument de l'A16, vous l'entendez aujourd'hui encore fréquemment parmi les entrepreneurs qui souhaitent s'installer dans le Jura?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis. Et donc, on ne l'entend plus tellement parce que ça fait partie des conditions cadres de notre économie. Si les entreprises viennent ici ou se développent ici, c'est parce qu'il y a des bonnes connexions, effectivement, l'A16, le train, par les airs également. Mais c'est aussi parce qu'il y a un savoir-faire et des compétences dans un savoir-faire qui est unique au monde dans le domaine des microtechniques. Et c'est pour ça que aussi cette région est attractive.
Pierre-Alain Béret répondait à Michel Léoni. Notons encore que le nombre de frontaliers a passé de 2800 à 11100, 25 ans. Un chiffre qu'on peut aussi imputer à la libre circulation des personnes. Le ski pourrait vous coûter plus cher cet hiver. L'association des remontées mécaniques suisses a récemment annoncé une augmentation de ses tarifs de 2 à 3%. Le forfait journalier coûtera en moyenne 70 francs et 20 centimes. Il ne s'agit toutefois que du prix moyen pour les grandes stations suisses. Dans la région, le téléski des Mugnonnais-Savanières a également décidé de revoir certains tarifs à la hausse. La carte journalière adulte passera par exemple de 40 à 42 francs. Il s'agit plutôt d'une adaptation, selon Séverine Perret, membre du conseil d'administration.
On a une clé de calcul à l'interne qui fait qu'on cherche toujours à avoir une cohérence entre ces différentes offres et puis celles-ci s'adaptent légèrement et des calculs sont projetés chaque année. Ça ne veut pas dire qu'il y a des adaptations ou des augmentations chaque année. Ça se fait vraiment dans une réflexion globale sur la durée.
Est-ce que c'est des adaptations qui sont également liées à la hausse des coûts de l'énergie? Parce que bien sûr, on pense à ça en premier lieu.
Alors, c'est vrai que cette année, quand on a commencé à réfléchir, donc c'était bien avant le communiqué des remontées mécaniques qu'on a pris cette décision, quand on a commencé à réfléchir à nos tarifs de saison pour l'année à venir, on devait se rendre à l'évidence qu'on avait des charges qui augmentaient fortement et que ça se justifiait, voire que ça se nécessitait d'ouvrir la réflexion au sujet d'augmentation comme je disais, les plus modestes possibles, et puis toujours en essayant de privilégier notre jeune clientèle, c'est-à-dire de toucher le moins possible aux tarifs enfants.
Contacter le téléski des Genevais prévoit également une augmentation de l'ordre de 5% pour faire face à la hausse des différents coûts, notamment de l'électricité. Le téléski des Breluls n'entend lui pas augmenter ses tarifs pour l'instant. Il y réfléchira à la fin de la saison hivernale. La fin de l'année approche et vous attendez peut-être encore votre avis de taxation définitive. Que vous soyez particulier ou patron d'une entreprise, le service des contributions accuse un certain retard dans le traitement des avis d'imposition. Retard reconnu au sein de l'État, mais on ne s'alarme pas et le service des contributions tente de rassurer. La situation serait en train de s'améliorer. Jérémy Pignard.
C'est en tout cas ce qu'affirme le chef du service des contributions. On accusait un certain retard, mais on est en train de le rattraper, confie Pascal Stucki. C'est surtout au niveau des personnes morales qu'il y a embouteillage, notamment depuis 2020 et la mise en place d'une nouvelle taxation avec RFFA. La transition a été difficile. Conséquence, ce retard génère un décalage. Pascal Stucki ne cache pas que de nombreuses entreprises recevront leur taxation 2022 en 2024, tout comme certains particuliers, même si là, les retards seraient en moyenne inférieurs à ceux des années précédentes. Mais le système fiscal est toujours plus complexe et le Jura compte plus de 50% de propriétaires immobiliers, ce qui complique encore la donne, défend le chef du service des contributions, qui promet une amélioration de la situation selon les secteurs à moyen terme.
Les travaux de la zone 30 km/h à Saint-Bré sont à bout touchant. La commune veut ainsi améliorer la qualité de vie de ses habitants qui vivent au bord de la H18, axe très utilisé pour le trafic de transit. La maire franc-montagnarde Aline Erard était ce matin l'invitée de Faut voir avec le maire. Elle estime que ses concitoyens apprécient cette nouvelle limitation de vitesse à Saint-Bré.
Entre 4 et 5 000 véhicules qui transitent tous les jours. Donc c'est quand même un problème pour la traversée du village et surtout pour les gens qui y habitent. Donc les gens qui y habitent sont satisfaits de cette réglementation nouvelle parce que pour la sécurité, c'est quand même appréciable que les gens passent moins vite. Les enfants vont à l'école aussi, les gens sont au milieu du village. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les automobilistes doivent comprendre que pour quelques centaines de mètres, c'est important pour les gens qui habitent là et qui sont tout le temps dans ce village d'avoir une limitation à 30.
Un autre projet qui a été évoqué pour la première fois il y a déjà de nombreuses années, c'était l'idée de créer en fait une route de contournement pour éviter Saint-Bray. Ça, c'est quelque chose qui est complètement tombé à l'eau.
Complètement, peut-être pas, mais dans un prochain avenir de toute façon, parce que c'est juste un terrain qui est réservé par le canton pour une éventuelle route de contournement. Donc pour l'instant, il n'y a aucun projet et j'imagine bien qu'avec les finances cantonales, ce n'est pas l'ordre du jour, malheureusement, pour le village. Mais...
Oui, vous dites malheureusement, pour vous, ce serait une bonne chose.
Alors bien sûr.
Aline Erard était l'invitée de Marceline Michon dans la matinale. L'entretien complet à retrouver en images sur rfj.ch. Les grands-parents pour le climat se réunissent cet après-midi à la Fondation Rurale Interjurassienne à Courtemelon. Ils évoqueront notamment l'importance du sol dans notre agriculture dans les discussions. Le but étant de trouver des pistes pour les générations futures. Une conférence-discussion qui débutera à 14h. Balthazar Gletli va quitter la présidence des Verts Suisses. Le conseiller national zurichois ne se représentera pas pour la fonction en avril prochain. Il l'a annoncé ce matin à la radio SRF, en cause la défaite de son parti lors des élections fédérales du mois dernier. Propagation, infection, traitement, le programme de recherche national sur le Covid-19 a apporté des connaissances majeures sur le virus. Ses responsables ont fait le bilan ce matin à Berne. Le programme a été lancé en urgence au début de la pandémie pour une durée de 2 ans. Il a notamment permis d'améliorer le dépistage et de développer des médicaments. Son comité tire aussi des enseignements pour les crises à venir, surtout pour optimiser la coopération entre les scientifiques et les autorités. Nicolas Rodondi est délégué du Conseil national de la recherche pour le programme Covid-19.
C'est vrai qu'il n'y avait aucune structure qui était mise en place avant la pandémie, donc tout s'est développé ad hoc pendant la pandémie avec certains problèmes. Maintenant, l'idée, c'est de créer un groupe d'échange en continu, par thématique, entre les autorités et les scientifiques. Et s'il y a une nouvelle crise, on ne sait pas dans quel domaine ça sera, ça pourrait être une pandémie, ça pourrait être autre chose, ce groupe puisse être élargi et mis très rapidement à disposition des autorités.
Ça veut dire que jusqu'à avant la pandémie, finalement, il n'y avait pas suffisamment d'échanges ou de collaboration entre les scientifiques et les autorités en Suisse ?
C'était vraiment sur mandat. Si tout d'un coup, il y avait un problème, il y avait 2-3 experts qui étaient invités à discuter à Berne, mais il n'y avait pas de groupe régulier d'échanges, notamment dans le domaine des pandémies.
Et pour quelles raisons est-ce que c'est vraiment important, selon vous, que les scientifiques y soient davantage intégrés finalement au travail des autorités suisses ?
L'idée, c'est que pendant une pandémie, il y a des connaissances qui changent très rapidement au fil du temps, des nouvelles connaissances qui arrivent. C'est très important que ces connaissances aussi arrivent au niveau des autorités pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions par rapport à la population.
Le département fédéral de l'Intérieur lance aujourd'hui une nouvelle stratégie de gestion du Covid-19 sur le long terme. Il veut ainsi protéger durablement les personnes vulnérables et éviter une surcharge du système de santé. Grosse prise de marijuana provenant de Suisse en Italie. La garde financière italienne en a saisi 196 kilos à bord d'une camionnette. La drogue d'une valeur estimée de 2 millions d'euros provenait de Suisse selon l'enquête. Elle avait été acheminée en République tchèque puis en Italie où elle était destinée à la vente. Le chauffeur de la camionnette, un Polonais de 53 ans, était arrêté puis remis en liberté, les conditions d'une incarcération n'étant pas réunies. Une course-poursuite meurtrière s'est produite en France. Une personne est morte et deux autres ont été gravement blessées alors qu'elles étaient poursuivies en voiture par la police la nuit dernière à Paris. Le véhicule aurait percuté du mobilier urbain. Les détails sur les circonstances de cette course-poursuite ne sont pas encore connus. Le Hamas a perdu le contrôle de Gaza, c'est en tout cas ce qu'a affirmé hier le ministre israélien de la Défense. Il a ajouté que les combattants du groupe islamiste fuyaient vers le sud. Le Hamas n'a pas commenté cette affirmation. Et le président américain Joe Biden a appelé hier Israël à protéger le principal hôpital de Gaza. Celui-ci est privé d'eau et d'électricité. Le directeur de l'établissement a déclaré ce matin que les morgues ne sont plus alimentées et les corps jonchent les allées du complexe hospitalier. Ainsi, au moins 180 morts ont dû être enterrés dans une fosse commune creusée dans le complexe de l'hôpital. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Je vous souhaite une bonne journée.